Radio Kapi.
Au sommaire de ce journal, plus de 100 personnes portées disparues à Kishishe dans le territoire des Rutshuru au Nord Kivu après un bouclage attribué aux combattants de l'AFC M23. Des notables locaux appellent au respect du droit international humanitaire et à la protection des civils. Journée mondiale de la langue maternelle célébrée ce samedi 21 février à Kinshasa, le centre Wallonie-Bruxelles met à l'honneur les langues congolaises. Le Tshiluba célébré à travers un dictionnaire inédit et la traduction du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Pourquoi traduire cette œuvre emblématique en langue nationale? À suivre dans ce journal. À Kindu, l'Union nationale de la presse du Congo UNPC section Maniema distingue plusieurs professionnels des médias pour leur travail en 2025. Son président, Grace Mbambi Wambambi, est l'invité de la rédaction ce soir. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au Nord Kivu, une centaine de personnes portées disparues ce week-end à Kishishe, dans le groupement des Bambo, chefferie des Buito, territoire des Rutshuru. Selon des sources locales, elles ont été arrêtées ce samedi lors d'un bouclage mené à l'aube par des combattants de l'AFC M23, puis embarqués vers une destination inconnue. Les interpellés sont accusés de collaborer avec les Wazalendo ou les FDLR. Un notable local appelle au respect du droit international humanitaire et à la protection des civils dans cette zone affectés par les violences armées. Suivons Isaac Kibira, fonctionnaire délégué adjoint des Bambo.
Les M23 ont emmené encore plus de 150 personnes vers une destination inconnue. Ils utilisent les FDLR et certains Wazalendo qui se sont rendus dans leur mouvement pour trier les personnes qui sont présumées collaboratrices des Wazalendo, des FDLR et des FRDC. Nous profitons de cette occasion d'interpeller la conscience de l'autorité. À Bambou, ils avaient pris plus ou moins 270 personnes. Parmi ces gens-là, ils n'ont fait libérer que 90 personnes. Ces autres sont formés comme des militaires et d'autres sont gardés dans la prison centrale de Rutshuru et ailleurs. Alors nous demandons au gouvernement de pouvoir se saisir de cette question des M23 qui sont en train toujours de violer les droits internationaux en faisant souffrir une population innocente. C'est même les FDLR qu'ils sont en conflit avec certaines personnes dans la communauté que les M23 sont en train d'utiliser. Et par là, ils profitent de l'occasion pour les faire aussi souffrir à les emmener dans la direction que les membres de leur famille ne connaissent pas.
Rappelons que le groupement des Bambo ainsi que plusieurs autres localités de la chefferie des Buito sont plongées dans une recrudescence des violences depuis plusieurs mois. Cela est dû entre autres à une opération de traque des FDLR et leurs présumés collaborateurs que mène la rébellion AFC M23 dans le milieu. Toujours au Nord Kivu, les violences ont repris ce week-end dans les zones de Katoi et d'Ufamandu, territoire des Masisi. Deux coalitions Wazalendo ont repris plusieurs localités auparavant tenues par l'AFC M23. La coalition Mai Mai Lamuka Raya Mutomboki, menée par Noah Maachano, a repris une grande partie d'Ufamandu premier et progresserait vers Ngungu depuis ce samedi soir. Les miliciens Pareco, alliés au FRDC, ont de leur côté réoccupé Nkonkwe, Bukumbire, Nyakigano et les chefs-lieux des Katoi et avancerait aussi vers Ngungu. Ces combats provoquent d'importants déplacements. Habitat et humanitaire s'est repris vers Sake ce dimanche. La situation reste très volatile dans la zone, ajoutent nos sources. Pendant 7 ans, à Ituri, 50 miliciens du groupe armé Chiniatuna ont déposé les armes et intégré le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS. Cette reddition est le résultat d'une campagne de sensibilisation menée par les PDDRCS, la MONUSCO et les autorités coutumières. Ces ex-combattants ont regagné leurs communautés respectives où ils bénéficieront des projets de réinsertion selon l'administrateur du territoire d'Irumu, Isaac Raymond.
Dans cette première phase du processus de désarmement, 50 miliciens du groupe armé Chiniatuna, dont 4 femmes, ont officiellement intégré le PDDRCS. Ils ont remis 5 armes à feu, un revolver, environ 600 munitions ainsi que plusieurs armes blanches. La cérémonie s'est déroulée samedi à Balingina, dans la chefferie de Walesevunkutu, à environ 100 km au nord de Bunia. Après leur identification par les services du PDDRCS, ils ont reçu des cartes de démobilisation. Ces ex-combattants ont ensuite regagné leurs entités d'origine où ils bénéficieront des programmes de réinsertion dans les domaines de leur choix, agriculture, menuiserie, mécanique, entre autres. L'administrateur du territoire d'Irumu a salué leur engagement à adhérer au processus de paix et à contribuer au développement de leur milieu, longtemps affecté par les exactions des groupes armés. Ces anciens combattants se sont également engagés à sensibiliser d'autres miliciens du groupe afin qu'ils rejoignent à leur tour le processus de désarmement. La deuxième phase du programme est prévue au mois de mai prochain. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Nous l'avons dit au sommaire, à l'occasion de la Journée mondiale des langues maternelles célébrée ce samedi 21 février, le Centre Wallonie-Bruxelles a organisé pendant 2 jours, soit vendredi et samedi, ici à Kinshasa, le 3e salon de littérature des langues congolaises. Plusieurs orateurs ont présenté leurs exposés, entre autres sur des thèmes comme « Traduire nos langues, c'est traduire notre mémoire et notre avenir ». Pour les intervenants, la population congolaise doit intérioriser la diversité des langues parlées en RDC. La langue Tshiluba était à l'honneur. Un dictionnaire en Tshiluba, écrit par Ngoyi Lukangu, a été présenté au public. Également, le livre « Le Petit Prince » d'Antoine de Saint-Exupéry, traduit en Tshiluba par André Chamba Kaninda, ancien journaliste de Radio Okapi au desk Tshiluba. Pourquoi traduire ces livres en Tshiluba? André Chamba explique au micro de Richard Junior Kamunga.
La traduction de ces livres poursuit 3 objectifs. D'abord, c'était un exercice de l'écriture en Tshiluba, étant moi-même autodidacte dans la langue. Ensuite, je l'avais traduit pour répondre et clore la polémique selon laquelle nos langues sont des dialectes parce qu'elles ne sont pas structurées. Et là, je venais de montrer qu'en traduisant Le Petit Prince, qui est écrit en un français soutenu, et lorsqu'on traduit dans nos langues, cela prouve que nos langues sont structurées et elles ne sont pas des dialectes. Et enfin, je voulais aussi répondre à ceux qui disent que nos langues sont pauvres. Les vocabulaires de nos langues ne sont pas suffisants pour couvrir peut-être des concepts et des mots qui sont dans d'autres langues. Et là, je venais de prouver que nos langues sont riches, mais c'est nous qui ne les maîtrisons pas. Je donne l'exemple du mot astéroïde. Qui pouvait penser qu'on pouvait avoir la traduction du mot astéroïde en Tshiluba? Que j'ai traduit par Kabulung, parce que l'astéroïde, c'est une planète. Et en Tshiluba, une planète, c'est du Bulung.
Dans le même chapitre, les intellectuels congolais en général, ceux de la Tshopo en particulier, sont appelés à promouvoir l'usage des langues maternelles congolaises en famille, l'un des espaces privilégiés pour leur apprentissage. Ceci pour garantir l'identité culturelle et sauver des langues premières menacées d'extinction à la suite de leur négligence au profit des langues étrangères. Cet appel a été lancé hier à Kisangani par les intervenants à la conférence organisée par le Centre de recherche en langue et culture africaine. C'est à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle. Le point avec Jacques Mkonkole.
Les 4 orateurs du jour, les docteurs Emmanuel Ngbanga, David Kopawakopa, De Gaulle Itolomé et Nicolas Mumbaya, ont démontré à travers leurs exposés respectifs les menaces d'extinction qui pèsent sur les langues maternelles congolaises. Si les familles, espaces de prédilection pour leur apprentissage, ne s'impliquent, affirme-t-il, ces langues vont disparaître et avec elles, tous les savoirs endogènes, comme l'explique le directeur du centre par intérim, le docteur Nicolas Mumbaya.
Si nous perdons nos langues, nous perdons aussi tout ce que nous avons comme richesse dans nos forêts. Et par conséquent, ils ne sauront pas les fonctions qui remplissent ces espèces. Telle espèce est arrivée à guérir telle maladie. Tous ces savoirs, on ne peut plus transmettre ça aux générations futures.
Afin d'éviter leur mort progressive, les conférenciers encouragent, outre leur usage en famille, le renforcement des recherches sur elles. Les médias et les opérateurs culturels sont appelés également à les valoriser. Enfin, ils recommandent une politique linguistique qui tienne compte de leur intégration dans l'enseignement. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
La question de l'industrialisation minière en République démocratique du Congo a dominé les échanges lors de la 10e conférence organisée la semaine dernière à l'université officielle de Mbujimayi dans la province du Kasaï oriental. Cette rencontre s'inscrit dans une série de débats menés dans plusieurs institutions académiques du pays. À l'origine de cette initiative, le député national Thierry Moulumba Mpandangila, porteur d'une proposition de loi qui vise à transformer localement les substances minérales et à développer les chaînes de valeur en RDC. Devant les étudiants de Mbujimayi, cet élu a souligné l'importance de ces textes qui ambitionnent de maximiser la valeur ajoutée locale, soutenir une industrialisation durable, renforcer la souveraineté économique et accroître les recettes publiques. Cette loi est une étape essentielle pour que nos ressources profitent d'abord à notre économie et à nos citoyens, explique Thierry Moulumba, insistant sur la nécessité d'une vision nationale capable de transformer la richesse minérale en levier de développement. On écoute Thierry Moulumba Mpandanjila, initiateur de la proposition de loi.
La loi Mpandanjila vient résoudre et combler le vide légal qui existe dans notre pays, dans tout l'arsenal juridique pour ce qui concerne la transformation locale de nos ressources naturelles et plus spécialement celle des ressources minières. Donc le code minier régule, réglemente les activités extractives. Par contre, jusqu'à présent, il n'y avait aucune loi réglementée les activités post-extractives dans la chaîne de valeur des substances minérales, et c'est ce que nous apportons à travers la loi Mpandanjila. La transformation locale sera progressive. La particularité, ça doit d'abord être le bénéfice que gagnera le pays en appliquant cette loi. Nous avons expliqué que l'extraction des minerais ne représente que 10% de la chaîne de valeur des substances minérales. Par contre, la transformation, elle vaut 90%. Donc si le pays veut gagner de l'argent et développer son économie sur base de ses ressources minières, elle a tout intérêt à se lancer à la transformation locale pour avoir des recettes qui sont beaucoup plus importantes que celles-là.
Et puis, dans le cadre de la campagne agricole 2025-2026, une équipe du ministère de l'Agriculture s'est rendue dans plusieurs centres d'amélioration et de production des semences améliorées CAPSA au Congo central. Cette descente sur le terrain a pour but de préparer la remise en état de ces structures longtemps laissées à l'abandon afin de renforcer l'encadrement et l'appui technique aux exploitants agricoles. Pour le responsable de la mission et directeur au ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, Gina Chilolo, ces centres ont vocation à être transformés en véritable plateforme de production et de diffusion d'innovations agricoles. Nana Plurichimambu nous en parle.
Pour les responsables de la mission et directeurs au ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, pour que les sols aient réellement sa revanche sur les sous-sols, le gouvernement de la République, à travers les ministères de l'Agriculture, prévoit introduire dans ces centres d'amélioration et de production des semences améliorées CAPSA des nouveaux outils techniques, parmi lesquels des variétés de semences performantes, des fertilisants, des équipements mécanisés, ainsi que des dispositifs d'observation météorologique pour anticiper les aléas liés au changement climatique. Cette tournée ne se limite pas à l'évaluation des bâtiments et des installations existantes. Elle permet également d'apprécier les niveaux de qualification et des conditions de travail des agents techniques sur place, mais aussi d'identifier les coopératives ainsi que les grands exploitants disposant d'importantes superficies cultivables. Ces acteurs sont appelés à jouer un rôle clé dans les circuits d'approvisionnement en semences et en intrants agricoles. Pour cette délégation du ministère de l'Agriculture, cette orientation stratégique devrait accroître les rendements agricoles, stimuler la production nationale et contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire au profit des communautés. Matadi, Nana Plurish Mambu, Radio Okapi.
Et au Nord Kivu, la relance des activités agricoles dans le groupement de Basongora, territoire de Beni, est au centre de la mission d'une délégation du ministère de l'Agriculture dans la zone depuis mercredi. Cette mission porte sur la collecte des données structurelles en vue d'identifier les associations agricoles locales et proposer des réformes adaptées aux réalités du terrain. Elle prévoit également l'évaluation des centres d'adaptation et de production des semences améliorées CAPSA dans l'objectif de les réhabiliter et de les transformer en pôles agricoles multifonctionnels. Kassere Kawate Voakizerbo, conseiller du ministre de l'Agriculture et chef de la délégation, revient sur les grandes lignes de cette opération au téléphone de Marc Marofimbo.
L'idéal serait que nous puissions travailler avec les coopératives. Et ces coopératives seront appuyées en intra le moment venu et seront appuyées à tous ceux-là qui interviennent pour que nous puissions accroître la production. Et le ministre a demandé de visiter aussi les centres d'adaptation et de production des semences améliorées, les CAPSA. On voudrait rénover les CAPSA pour que les CAPSA deviennent finalement vraiment des grands centres où il y aura tout. Et donc, si on veut réparer les tracteurs, qu'on arrive au CAPSA. Si on voudrait avoir la semence, qu'on arrive au CAPSA. Et la météorologie, pour qu'on sache quand est-ce qu'on doit planter, il faut que les gens puissent avoir des techniciens au CAPSA. Mais aussi, nous allons faire l'audit du personnel du ministère, parce qu'on voudrait savoir qui sont les personnels avec qui nous travaillons. Et aussi, il y a des spéculations pour savoir, par exemple, dans les Busongora, quelle est la culture phare. Et si c'est les haricots, pour que les ministères puissent approvisionner les Busongora en semences des haricots, pour qu'il y ait une grande production en haricots. Et donc, le ministère de l'Agriculture s'est réveillé finalement de son sommeil. Il y a plus de 500 missionnaires sur toute l'étendue de la République, donc dans les 26 provinces.
Cette autre nouvelle, dans le Grand Équateur, Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, a inauguré ce samedi le nouveau balisage lumineux de l'aéroport de Mbandaka. Cette inauguration s'est déroulée en présence du gouverneur de la province de l'Équateur, Bobo Boloko Bolumbu, du directeur général ad intérim de la régie des voies aériennes, Louis Blaise Londole, ainsi que de plusieurs autorités provinciales. C'est depuis près de 20 ans que cet aéroport ne pouvait plus recevoir les atterrissages des avions la nuit. Les vols des nuits sont désormais possibles 24 heures sur 24 sur Mbandaka. Une avancée majeure pour la sécurité et l'économie de l'Équateur. L'inauguration a coïncidé avec le 54e anniversaire de la RVA. Il est prévu une descente de Jean-Pierre Bemba à Guémena pour inspecter des travaux de réhabilitation et modernisation de l'aéroport du Sud Ubangi.
Actualité internationale.
Au Tchad, 4 militaires ont été tués dans la nuit du 17 au 18 février dans la province de Borku, à l'extrême nord du pays. L'incident se serait produit lors d'un affrontement avec des coupeurs de route. En réaction, le gouverneur de la province a été suspendu de ses fonctions en raison du refus d'assumer ses responsabilités.
L'invité.
Notre invité est le président du comité de transition de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC Maniema, Grâce Mbambi Wambambi. Cette structure vient de plébisciter plusieurs professionnels des médias de Kindu qui se sont illustrés par la qualité de leur travail au cours de l'année 2025. Pourquoi l'UNPC agit-elle ainsi? Élément de réponse avec Grâce Mbambi dans cet entretien réalisé par Florence Kizalunga.
Grâce Mbambi Wambambi, bonjour.
Bonjour, cher conseiller.
Aujourd'hui, vous primez certains professionnels des médias de la ville de Kindu. Sous quel signe vous placez cette cérémonie?
C'est sous le signe de reconnaissance que nous plaçons cette cérémonie. Reconnaissance pourquoi? Parce que nous, comme Union nationale de la presse du Congo, section du Maniema, nous devons reconnaître le travail qui est fait par ces hommes et ces femmes des médias qui se battent chaque jour pour informer la population de la province du Maniema d'une manière générale. Et donc, il était temps pour nous de récompenser ces hommes et ces femmes d'une manière ou d'une autre au travail qu'ils sont en train d'exercer au profit de la population. Et c'est aussi une façon de les inciter à redoubler d'efforts pour encore informer comme il se doit cette population de notre province.
Ils étaient au moins 13 et parmi eux, il y avait aussi, c'est là que vous avez appelé amis de la presse. Il y a aussi certains dont vous avez donné un titre posthume que vous avez aussi primé. Quels sont les critères qui ont prévalu pour le choix des lauréats?
Merci beaucoup. Les critères ont varié selon chaque catégorie, mais d'une manière générale, je dirais que nous avons privilégié le travail de qualité qui est en train d'être fait par ces hommes et ces femmes et le respect du code éthique et de déontologie qui doit nous caractériser tous comme journalistes et le respect pour les maisons de presse ou les journalistes de leur ligne éditoriale. Donc ce sont les quelques critères, je dirais, en commun qui nous ont poussé à choisir le meilleur d'entre nous.
Alors, que fait l'UNPC Maniema pour lutter contre la désinformation, pour faciliter l'accès aux sources d'information aux journalistes?
Merci beaucoup. Ça, c'est une question très pertinente. Vous savez que nous sommes à l'ère du numérique et les journalistes sont souvent confrontés à de sérieux problèmes, surtout à ce qui concerne la transition, parce que à l'ère du numérique, comme je venais de dire, nous, journalistes, nous devons aussi nous adapter à cette problématique-là. Et nous, l'UNPC, section du Maniema, nous sommes en train d'encourager les journalistes à vérifier les informations avant de publier. Également, nous demandons à ces professionnels des médias et nous les encourageons également à la collaboration entre donc les médias d'une part et les fact-checkers, mais aussi les plateformes des réseaux sociaux pour essayer de vérifier comme il se doit les informations donc avant de les publier. Alors, qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour permettre aux journalistes à l'accès aux informations qu'ils ont besoin? Premièrement, nous sommes en train d'encourager chaque fois que nous avons des activités, nous encourageons les institutions à être transparentes et à fournir des informations accessibles au public. Cela permet à un journaliste d'avoir facilement une information. Et en dehors de ça, nous sommes en train d'encourager aussi les journalistes à construire des réseaux de contacts pour accéder à des sources qui sont fiables. Voilà en quelques termes ce que nous sommes en train de faire, nous comme INPC dans la province du Maniema, pour permettre à ces hommes et ces femmes des médias d'avoir accès facilement aux sources d'information.
C'est pour la deuxième fois que vous procédez à ce genre de cérémonie. Est-ce que l'INPC Maniema, vous voudrez faire de cette cérémonie une cérémonie de routine où vous primez chaque fois les journalistes?
Bon, nous primons officiellement les journalistes de notre province pour la première fois, mais la fois passée, nous avons primé des confrères qui nous ont honorés parce que, comme vous le savez, pendant les élections de 2023, trois d'entre nous ont été élus à la députation provinciale, donc un député provincial, et nous avons aussi des conseillers communaux. Alors, pendant la cérémonie que nous avons organisée à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse, nous avons honoré officiellement ces confrères, mais nous venons de primer pour la première fois les journalistes qui sont en fonction et qui exercent leur fonction chaque jour. Et pour répondre à la question, moi je dirais que nous, en tout cas le souhait c'est de permettre à ce que cette activité soit de routine, comme vous l'avez dit. Et d'ailleurs je l'ai même mentionné dans le discours que nous avons tenu pendant la cérémonie. J'étais en train de dire que nous voulons à ce que à chaque début d'année nous puissions organiser cette activité. Justement c'est dans les soucis de promouvoir notre presse, mais au-delà de ça c'est dans les soucis aussi d'inciter tout le monde à ce que nous puissions nous donner au travail. Et peut-être à travers le travail que nous sommes en train de faire, ça va permettre au jury que nous sommes en train de mettre en place de côté notre travail pour que nous soyons primés.
Grâce Mbambi Wambambi, merci.
Merci beaucoup madame.
Ainsi prend fin ce journal, mis en onde par Alain Goy, coordonné par Richard Junior Kamunga et Jude Mystère Bilanda, à la présentation grâce à Mzati Masanzi. Merci.